moi je suis en train de me au café oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est lui qui vous voyez au café hangar. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous proposent ce débat citoyen sur la fréquence de l'AP, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres du ministère de l'Intérieur. Va lancer ce vendredi 26 février la campagne de sensibilisation pour les opérations du désarmement civil en République démocratique du Congo. Ceci pour répondre à la recommandation universelle de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres dans les milieux des civils. Selon les statistiques, sur les 875 millions d'armes de petits calibres en circulation dans le monde, environ 525 millions sont dans les mains des civils. Une situation à la base, notamment de plusieurs violences et du banditisme dans l'est de la République démocratique du Congo ou ailleurs. Que faut-il faire pour lutter efficacement contre la circulation de ces genres d'armes par la population en République démocratique du Congo? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Notez que Vinicius Abongondé est au standard et Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par Jérôme Guébo sous la supervision de Martin Sebou Jean-Louis. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 7315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à vous tous, vous êtes nombreux à nous voir donner votre point de vue par rapport à cette thématique sur notre page Facebook. Nous recevons le premier auditeur qui va ouvrir quand même ce débat. Confiance, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Confiance.
Bonjour, Mbote Djambo, à tous les vocalistes de la radio de la paix.
Confiance, vous avez la parole, en fait, par rapport à cette opération de désarmement des civils en République démocratique du Congo. Donc, je voulais parler des civils qui portent des armes.
Oui, les civils qui portent des armes, je pense que dans des pays organisés, ils sont souvent identifiés. Parce que le port d'armes est une activité légale. Et lorsqu'elle est couverte par des documents qui justifient le port d'armes. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui ne concerne pas vraiment notre pays, parce que nous devons voir le rapport du port d'armes. Moi, je pense que ceux qui portent les armes en RDC, dans la plupart des cas, sont déjà connus. Mais j'aurais souhaité qu'on parte du principe qui crée le port d'armes. Moi, je pense qu'une arme, en principe, c'est quelque chose qu'on utilise pour se protéger. Donc, combattre le port d'armes, moi j'aurais souhaité qu'on commence par combattre l'insécurité. Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent en insécurité, qui porte une arme. Et j'aurais souhaité qu'on précise, ce sont des armes à feu ou des armes blanches. Parce que moi je pense que ce qui crée la plus grande insécurité, c'est le port des armes blanches. Le port des armes à feu, je ne pense personnellement pas que ça concerne une grande partie de la population congolaise.
Oui, mais confère, vous savez, comme nous, que nous sommes un pays post-conflit.
Exactement. Mais c'est pourquoi je parlais au début de commencer par chercher les causes de l'insécurité. Parce qu'il n'y a que celui qui se sent en insécurité qui cherche une arme pour se protéger. Or, si on commençait par combattre l'insécurité, on combattrait directement le port d'armes. Parce que tous ces gens-là qui sont à l'Est, ils ont commencé par une insécurité pour se retrouver dans une guerre. Et dans une guerre, les armes sont non contrôlées. Et automatiquement, là où il y a des gens organisés, c'est difficile que ces armes, qui sont des armes de guerre, se retrouvent entre les mains des civils. Moi, je pense que c'est ça le gros du problème. Mais si ce ne sont que des armes de petit calibre, je ne pense même pas que ça ne nous concerne parce que nous n'avons pas ce luxe-là.
Alors, merci beaucoup, Confiance. C'est vrai, vous estimez qu'il va falloir d'abord déterminer les causes de l'insécurité pour les cas de la RDC, parce qu'en réalité, il y a des armes qui ne sont pas, en fait, détenues ou encore portées par les civils que nous sommes, malgré que nous sommes un pays post-conflit. Donc, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de problèmes à prendre en compte par rapport à cette opération. C'est vrai, il y a une opération qui doit être lancée au niveau de Lubumbashi. et notre connaissance nous fait savoir que effectivement en 2014 il y a eu l'opération Anitouri, parce que nous sommes disons un pays post-conflit. Il y aura tant d'autres par rapport à cette opération qui est appuyée par le PNUD, le programme national pour le développement. On va recueillir également le point de vue de Maître Sonville qui est à Lubumbashi, et parce que Lubumbashi sera également concerné par rapport à cette deuxième étape. Maître Sonville, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Bureau, Monsieur Gire, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Fafi.
Vous avez la parole.
Par rapport à la thématique, Monsieur Gire, je dirais que si. Tout d'abord, il faudrait que la population sache que le port d'armes est réglementé par notre loi. Et il y a un service approprié au niveau du ministère de l'Intérieur et il est implanté dans toutes les villes, soit disant protection civile, le service de protection civile. C'est-à-dire que ce service-là permet à un citoyen congolais de porter une arme. Il est nécessaire que cette arme-là soit une arme civile. C'est-à-dire qu'il y a des préalables, il y a des conditions qui sont posées. On procède à l'achat d'une arme, on présente cette arme auprès du préposé de ce service pour que puisse identifier l'arme en question, si c'est l'arme est civile. Mais au-delà de ça, il faut présenter les casiers judiciaires, l'attestation de bord d'INS, la photocopie des cartes d'électeur, soit une carte d'identité et trois photos passeport. Et la facture même de l'achat. Mais par ma connaissance, je sais qu'au Congo, il y a aussi un magasin là où on vend des armes. C'est-à-dire que les gens, ça se procure les armes peut-être à partir de l'Europe, soit à partir de la Russie.
Oui, d'être son ville. Au regard de la situation qui a prévalu dernièrement au Katanga, par exemple, l'ex-Katanga, le grand Katanga, on se rend compte que, en fait, plusieurs événements qui se sont succédés en rapport avec de la sécurité, on s'est rendu compte qu'il y a des civils qui portent des armes, quoique légères, ou encore des armes blanches ou armes à feu, et qui ont causé de l'insécurité à Lubumbashi, notamment. Alors, aujourd'hui, s'il faut organiser cette opération désarmement des civils, vous pensez que c'est vraiment opportun à Lubumbashi, parce que quoi qu'il est concerné, Mitwaba, Malembakulu.
C'est opportun, M. Gilles, puisqu'il y a beaucoup de cas de vol armé qui sont un peu récurrents. Peut-être même on arrête le civil armé qui a été envahir une maison d'autrui. Peut-être même cette maison-là envahie, soit séquestrée, ça se trouve dans les environs même, quatre forces de la police. C'est-à-dire que cette fouille et ce contrôle-là est vraiment le bienvenu au niveau de Lubumbashi pour sécuriser la population. Alors moi, j'aimerais même que ce soit même un bouclage, là où on peut procéder à une fouille systématique, même dans des maisons. Mais ce jour, vous vous rendrez compte qu'avec moi, il y a même pour le moment, tellement que les militaires, ni les policiers n'ont pas non plus de casernes, là où ils doivent loger, il y a des militaires et des policiers qui rentrent avec leurs armes au niveau de la cité. Quelle est cette sécurité dans laquelle on est en train de détromper cette population? Vous comprenez un peu? Hormis cela, monsieur Gilles, vous avez parlé du cas de Mitwaba. Il y a eu des invasions du côté de Mitwaba. Après ces invasions-là, les armes ont été récupérées. J'estime que non. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait un service conjoint et de notre armée et de la munition, y compris même la sécurité non apparente, pour procéder à ces contrôles-là, afin de protéger la population.
Voilà.
Vous comprendrez avec moi, monsieur Gilles. Il y avait eu en son temps l'opération avec le pasteur Mulunda, une arme $100. Est-ce que cette opération avait abouti? Ou soit l'argent qui a été remis à la gestion du pasteur Mulunda a été volatilisé? C'est ça le problème. Moi, j'aimerais que même le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'il n'est pas en mesure de procéder à cette opération, d'associer même les partenaires traditionnels, qui peuvent aussi faire quelque chose par rapport à la protection des civils qui sont tout le temps malmenés par les gens qui portent les armes. Et ce n'est pas seulement les civils, monsieur Gilles, qui portent les armes. Il y a
des
militaires, des acteurs. C'est-à-dire qu'avec cette réforme qui s'est effectuée au niveau de la police, au niveau même de l'armée, la réforme n'a pas été tout à fait satisfaisante.
Voilà. Alors je crois que là notre invité pourrait nous faire la différence entre le désarmement des civils et aussi la démobilisation, hein, parce que là c'est deux opérations différentes, la démobilisation, la réintégration, et voilà, tous ces termes que nous avons connus en son temps avec les CONADER, avec les DDDR et par la suite DDDRL. Voilà, donc j'ai du mal un peu, mais vous avez quand même compris qu'il y a eu des opérations qui ont précédé celle-ci, qui concernent le désarmement des civils. 081-890-7315 pour votre participation à cette émission.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capitouf, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capitouf vous donne la parole. Au Capitouf, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Vous êtes sur Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre invité, le colonel Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Bonjour, comment colonel?
Bonjour, Pierre.
Voilà, d'entrée des yeux, nous vous présentons comme secrétaire permanent de la commission.
Oui, je suis le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, qui est une commission interministérielle. Donc, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères.
Alors, comment est le cas, ça? Est-ce une réalité aujourd'hui, les ports d'armes légères et de petit calibre par les civils en RDC? Est-ce que ça va une réalité?
Oui, c'est une réalité que tout le monde vit. Il y a plusieurs armes qui sont détenues légalement. Parce qu'ici, nous parlons des armes qui sont détenues illégalement par des civils. C'est vrai, il y a des armes. Il y a des procédures pour obtenir une autorisation de port d'armes d'une manière régulière, et ce, conformément à l'ordonnance loi numéro 05 de 1985. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui détiennent des armes illégalement. Dans les grands centres, même dans les milieux reculés. Je vais vous donner l'exemple de groupes armés. C'est des groupes non étatiques et qui n'ont pas autorité, qui n'ont pas pouvoir de détenir les armes. Et tout ça, nous le considérons comme des armes illégalement détenues qu'on doit récupérer de plusieurs manières. On peut récupérer soit par un désarmement. Et si nous ne parlons pas du désarmement qui est organisé au ministère de la Défense, ce n'est pas des opérations militaires. On contraint les détenteurs de ces armes à les rendre par la force. Mm-hmm. On les attaque, ils le rendent les armes, on le prend. Ils sont soit réintégrés dans les forces armées, soit ils sont démobilisés. Mais ici, nous parlons d'un désarmement civil et volontaire. Civil, c'est-à-dire c'est un désarmement qui concerne les civils. J'ai bien dit les armes qui sont détenues illégalement. Désarmement civil qui concerne les civils, puis un désarmement volontaire. On ne contraint pas les gens. On sensibilise les gens à les rendre volontairement. On leur explique le danger qu'il y a en détenant ces armes. On leur explique aussi que c'est déjà une violation par rapport à la loi.
Mm-hmm.
Quand vous êtes arrêté en détention, vous avez une arme que vous détenez légalement, vous devez être puni selon la loi. On leur explique tout ça et on leur donne aussi l'avantage de rendre ces armes. Si je peux réagir à ce que notre ami Confiance de Kinshasa a exprimé comme inquiétude, notamment arme à feu, arme blanche, et tout. C'est vrai, il y a une procédure pour obtenir le permis de port d'armes auprès des services compétents au ministère de l'Intérieur. C'est vrai, une procédure, vous avez. Mais ici, je le répète encore, nous sommes en train de parler des armes d'armement illégalement. Les gens doivent vendre ces armes. Je crois qu'il a fait une petite confusion entre armes. Les armes légères, on est en train de parler ici, armes blanches. Armes blanches, il faut faire.
Oui, surtout que ce n'est pas les débats du jour.
Oui, mais seulement, je sais que la même opération, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième étape, vous allez virer au Katanga.
Ouais.
Mais avant cela, il y a eu Ituri, en 2014.
Ouais.
Quel est d'abord le résultat? Le résultat était plus que patent. Nous avons récupéré plus de 1000 armes et plus de 20 tonnes de munitions, jusqu'à Bounia, Libye et Fatay. Et l'opération n'est même pas arrivée à la fin parce que.
Donc il y avait Bounia, Fataki, Lili, Mahagi
et Bounia. Oui. Ça, c'était une opération, on appelle une opération pilote. C'était une opération pilote. Je crois que vous allez vous poser peut-être la question pourquoi vous avez arrêté là-bas et vous allez dans le Lokatanga. Selon une étude que nous avons menée ensemble avec nos partenaires GRIP et BICC, juste à l'est du pays, 300 000 armes sont en circulation illicite.
300 000
armes. 300 000 armes. Et toutes ces armes, on doit les récupérer. Mais on regarde par rapport au taux de détention, taux de prolifération des armes. On trouve par exemple qu'actuellement dans les nord du Katanga, les taux sont très élevés. Vous savez, pour qu'on arrive à déterminer, pour qu'on arrive à décider que le désarmement va avoir lieu dans le nord du Katanga, c'est parce qu'on a fait des enquêtes, on a fait des études, on a fait plusieurs mois dans le nord du Katanga, même on a été là. Juste un exemple que je peux vous donner. Pendant qu'on était en train de mener des études, les gens ont rendu les armes. Sans rien. On ne leur a rien donné. Ils ont rendu les armes. Il suffisait simplement de faire des enquêtes, d'expliquer un peu les dangers qu'il y a déjà. Non. Nous étions des ignorants, nous rendons les armes. Les taux de détention et les taux de prolifération des armes dans les territoires qui sont concernés par les armes actuelles est très élevé.
Poitou,
Mitouaba,
Malemakulu,
Malemakulu, Manono, Moba et Kalemi.
Le triangle de la mort.
Le triangle de la mort. C'est vrai que les taux d'un territoire à un autre, les taux de prolifération n'est pas les mêmes. Il y a des territoires où vous trouvez pratiquement, je peux dire, 50% de la population des criminels. Par exemple, comme à Mitouaba. Un taux plus élevé par rapport à un autre territoire.
Juste une question de curiosité. Pourquoi une opération maintenant au Katanga, est-ce que c'est des implications politiques?
Non, moi en tant que technicien, je ne parle pas des implications politiques. Moi en tant que technicien, parce que si j'interviens en tant que technicien,
tout à fait.
C'est une étude ici que nous avons commencé à mener depuis 2010. C'est depuis 2010 que nous avons mené cette étude et nous avons trouvé qu'il y avait 300 000 arbres en circulation illicite, qui étaient détenus illégalement et qu'on devait commencer à les récupérer. Les taux, comme je viens de vous l'expliquer précédemment ici, les taux de détention est très élevé dans cette partie du dans cette partie du territoire national que dans d'autres.
Alors, une autre question qui te vient à l'esprit, aujourd'hui c'est vrai, vous avez évoqué les statistiques, c'est ce qui d'ailleurs qui justifie ces opérations, le désarmement civil volontaire. Nous avons vu par le passé ce genre d'opérations d'être organisées, notamment avec disons, la récupération des armes, moyennant $100, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut confondre ça, ou peut-être c'est l'État qui s'engage?
Non, on ne peut pas pouvoir désarmer au maximum le pareil que c'était une ONG. Nous sommes le gouvernement, nous sommes une structure du gouvernement. Et le gouvernement, en faisant ça, respecte un certain nombre de principes. Il faut savoir aussi que le gouvernement est signataire de plusieurs accords, de plusieurs instruments juridiques internationaux. Notamment ici, nous faisons référence, par exemple, au programme d'action des Nations Unies pour combattre la détention et la circulation illicite des armes légères. Il y a aussi le protocole de Nairobi. Tous ces instruments juridiques combattent la détention illicite et on prévoit dans ces instruments aussi un désarmement civil volontaire, mais selon un certain nombre de critères qui sont peut-être différents de ce que le PAREC avait fait. Et le PAREC faisait une arme contre $100. Nous, ce n'est pas comme ça.
Et nous, c'est sous l'approche.
Nous, c'est sous l'approche arme contre développement.
C'est-à-dire,
nous appelons ça arme contre développement.
C'est-à-dire,
après avoir mené des études, après avoir mené des enquêtes sur le terrain, on a contacté les populations locales. On essaie plus ou moins de comprendre quels sont leurs besoins imminents, quels sont leurs besoins urgents, au cas où on reviendrait avec les armes. Ça a été clairement dit que nous ne remet pas de l'argent.
Si les besoins se situent au niveau de filets de pêche, vous donnez les filets de rails,
voilà.
Puis si c'est
en fait les machines à coudre. Dans cette partie du territoire, dans le nord du Katanga, les gens ont beaucoup exprimé le besoin d'avoir des choses comme le vélo, moto, filet de pêche. Donc, des matériels, des équipements qui vont sûrement aider au développement des contrées. Les gens vont avoir ça pour créer une activité économique quelconque. C'est comme ça que nous parlons de l'approche arme contre développement. Quelqu'un qui aura une arme, on lui donne une moto. Quelqu'un qui aura une arme, on lui donne un développement.
Ça pourrait créer une activité économique. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième série des auditeurs et puis on revient à vous, colonel Kasongo Kabuk. Vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle de port d'armes.
Contrôle des armes
légères et petit calibre. Alors, Olivier, vous êtes à Kikwit, c'est Félicien à Kinshasa, Albert à Canada. Olivier, bonjour.
Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Olivier, par rapport à la thématique. Comment vous réagissez? Quel est votre avis? Comment faire? Que faut-il faire pour lutter efficacement contre, donc, je disais, la circulation des ports d'armes légères et des petits calibres par la population en RDC?
Ok. Je pense que s'il y a des choses à faire, la première chose, c'est d'abord être sûr que nous sommes tous pour la sécurité. Donc il faut qu'on s'assure que la sécurité nous arrange. Parce que JR n'est pas sans ignorer que l'insécurité, c'est une situation qui, parfois, fait fleurir les affaires. Et très souvent, on entendait dire qu'à l'Est, les affaires sont florissantes. Donc ça signifie qu'il y a des personnes qui se trouvent très à l'aise dans la situation actuelle. Et aussi, c'est pour dire que l'insécurité, c'est parfois un mode de gestion qui arrange certaines choses. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, je crois aussi que si le gouvernement doit s'en mêler, il faudrait que cela se fasse dans un plan global de sécurisation du pays. Et il ne faudrait pas qu'on prenne des actions isolées. On dit on va désarmer les civils de façon volontaire. On va désarmer quels civils? Parce que nous avons deux types de civils maintenant à RDC. Nous avons des civils congolais qui sont autochtones de là où ils sont, et nous avons des civils déplacés de guerre qui pensent être en droit de se protéger et qui ont des armes qui les acquièrent de je ne sais quelle manière. Alors, on va désarmer qui? Ça, c'est une question à laquelle je pense que le colonel va répondre, parce que ce civil, il y en a de plusieurs sortes. Alors, le problème, c'est que on constate que le marché des armes, c'est un marché aussi très florissant. Pourquoi? Parce que on a l'impression que le gouvernement, et si nous prenons les articles 182 à 192 de la Constitution, donc vous avez la police et l'armée, on a l'impression que la police est un peu laxiste, l'armée aussi est laxiste. Alors je ne sais pas si le colonel peut nous dire si l'armée fait bien son travail de sécurisation du pays, et si la police fait son travail, c'est un problème. Si nous prenons ce qui se passe dans les territoires des villes à Ituri, vous allez à Béni, Lubero, tout ça. Et là, vous comprendrez avec moi que ceux qui arrivent à trouver des armes pensent qu'ils sont en droit de les avoir. Et l'armée, le gouvernement de manière générale, n'arrive pas à contrôler ce territoire-là. Et vous irez à l'est de Ituri jusqu'au nord du Katanga. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Alors, quel gouvernement maintenant vient pour désarmer alors qu'il ne faut pas le rôle de
police? Olivier, oui. Vous avez quand même posé un problème de fond, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent pratiquement la même question. Nous prenons les cas, par exemple, de Béni, pour reprendre vos propres mots. Béni, par exemple, où les cas de sécurité est beaucoup plus réel du côté des civils. En fait, des gens qui opèrent selon plusieurs enquêtes et selon plusieurs rapports, ce sont des gens qui agissent avec des tenues de civils. Ce ne sont pas des éléments des militaires ou encore de la police. Voilà. Alors, c'est ce qui prouve en toute évidence que dans plus des rapports, il y a nécessité de procéder à cette opération de désarmer de manière volontaire les civils. Je crois que c'est ça c'est ce qui se fait actuellement. C'est une opération de désarmement volontaire.
Tout à fait d'accord, mais il faudrait qu'il y ait un travail de routine de la police et de l'armée et des autres services de sécurité. Donc ça ne doit pas être une action isolée aujourd'hui, on se réveille un matin, on va les utiliser de façon volontaire. Ce n'est pas possible parce que quelqu'un qui est habitué à faire des masques. C'est pas si vous protéger ces mines d'or.
Voilà, comme je l'ai dit d'une question directe, il y a l'invité qui voulait réagir rapidement. Je crois que c'est pratiquement il a fait. Laissez en ligne, Olivier. Merci beaucoup. Je crois, je dirais à M. Olivier que ce n'est pas une action isolée. Il y a tout un plan qui est déjà établi pour procéder au désarmement volontaire sur l'ensemble du territoire. Mais il devra comprendre qu'on doit y aller méthodiquement. C'est tout un processus. On ne doit pas lancer ça dans tous les 142 territoires du pays au même moment. On doit y aller étape par étape. Mais quand il dit qui on doit désarmer, moi je vais lui poser la question, qui crée l'insécurité? C'est pas seulement les forces armées ou la police qui crée l'insécurité. Les civils, ici nous parlons de la population civile qui détient les armes. J'ai donné les statistiques, nous avons 300 000 armes qui sont en circulation illicite, qui sont détenues par les civils, non pas par l'armée. Parce que ici nous ne faisons pas allusion aux armes qui sont détenues par les forces de l'ordre. Par les forces de défense et de sécurité, parce que ces armes sont contrôlées.
Mais il y a un aspect important que Olivier a évoqué, les déplacés de guerre.
Oui, les déplacés de guerre, ce sont civils. Ils sont concernés par ces armes-là. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le droit de détenir les armes, qu'ils soient déplacés, que ce soit. Assurer la sécurité, c'est
notre paire de manches.
C'est notre paire de manches. Assurer la sécurité, les gouvernements à la charge de la sécurité.
C'est dans sa mission
régale. Si tout le monde doit se dire, je dois assurer ma sécurité, je dois avoir une arme. vous comprendrez où nous irons. Olivier doit chercher, va chercher à avoir une arme, vous chercherez à avoir une arme, moi aussi. Et étant donné que nos intérêts ne sont pas.
Nous allons les régler des comptes,
nous allons régler des comptes. Il faut laisser, parce que la Constitution, elle a fait référence à la Constitution.
La Constitution, c'est 182 jusqu'à l'article 62.
Règle cette question, c'est pas tout le monde qui est habilité à avoir une arme pour, soi-disant, assurer sa propre sécurité. Il y a des institutions.
Donc là, vous étiez à l'arme. Le discours, encore, il s'agit là d'une opération désarmement des civils.
Désarmement volontaire. C'est un désarmement des civils et c'est désarmement involontaire. On a planifié à peu près sur l'ensemble du territoire, mais il doit comprendre avec moi qu'on doit y aller.
Après, Ituri, maintenant, c'est le Katanga.
L'autre fois, on a fait que seulement dans un territoire, dans l'Ituri, mais maintenant, ici, nous avons 8 territoires.
Ils ont compris quel territoire.
Nous sommes en train de le faire à Mitouaba, à Malembalkoulou, à Manono, à Kasenga, à Poito, à Moba, à Kalini et à Lubumbashi.
Alors, on va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Canada.
Quel est votre avis, Félicien?
Oui, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse désormais, de la manière la plus étendue possible, et sur toutes les étendues du pays, si je vais bien répéter. Parce que c'est pas normal que les gens soient dans cette insécurité partout, on ne sait pas circuler, et des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des armes, ils ont des armes, là où on ne peut même pas penser être attaqué, on est attaqué, et ça c'est pas une vie, et ça fait pas favoriser le développement dans un pays. Mais je voudrais savoir comment on peut réussir le désarmement. Et quand on n'arrive pas à bloquer les causes ou les sources de cette prolifération des armes, si on comprend bien, la prolifération des armes dans les provinces, c'est favorisé par la situation poreuse de nos frontières. Tant qu'on ne va pas veiller sur cette situation de frontière, comment est-ce qu'on va? Et on va désarmer, parce qu'on désarme aujourd'hui, on désarme à droite, à gauche, ça entre, on désarme à gauche, à droite, ça entre, donc ça sera une situation sans solution. Et puis, pourquoi on ne devait pas réglementer aussi la situation des ports d'armes dans les villes? L'insécurité dans les villes fait que les bandits ont facilement la possibilité d'avoir des armes pour attaquer des petits citoyens, mais un petit citoyen n'a pas aussi cette même facilité d'avoir une arme pour se protéger. Et c'est ça qu'on devrait d'abord chercher à réglementer. Et quand on a réglementé que les gens peuvent avoir des armes officiellement et sans problème, alors, on va traquer maintenant les bandits, et les bandits aussi vont savoir que les gens sont armés, et ça ne sert pas d'aller chercher à les attaquer parce qu'ils peuvent riposter. Donc, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, il faut que ça soit une étude très minutieuse, sinon on risque de faire un travail qui ne va pas aboutir au résultat escompté.
Merci beaucoup, vous souhaitez pour le succès de cette opération. Désarmement des civils, c'est un désarmement qui du reste sera volontaire, que tout passe par d'abord à la recherche de causes et sources de différences d'insécurité. Et là, carrément, peut-être que vous avez utilisé le terme cause, nous allons un peu plus loin pour parler même de la traçabilité. Est-ce que quand les gens arrivent à restituer ces armes légères, que ce soit, ou encore des petits calibres, est-ce que l'opération, dans le cadre de cette opération, il est prévu une autre étape de pouvoir tracer l'origine de ces armes pour permettre à ce que, déjà en amont, on puisse vraiment arrêter cela. Parce qu'il s'agit là d'une préoccupation aussi directe. Colonel Castoro, est-ce que c'est possible, après l'opération, c'est-à-dire après avoir récupéré les armes, que vous procédez aussi à la traçabilité, l'origine, la source, hein, parce que les civils ne les détiennent pas comme ça par un coup de bâton magique.
Tout à fait. Je crois, avant de répondre à votre question, je vais répondre à notre frère Félicien, à notre ami Félicien, notamment sur la régulariser, faciliter le port d'armes dans les grands centres. Je crois que c'est un problème d'information. Il existe au ministère de l'Intérieur des services qui sont ouverts à tout le monde quand il a besoin de détenir une arme légalement. Parce que si, quand nous disons les désarmements civils, cela ne veut dire pas qu'un civil ne doit pas détenir une arme. il y a une catégorie de civils qui peuvent détenir une arme. Si vous allez vous demander une autorisation de port d'armes d'une manière régulière, vous l'avez, vous avez votre arme. On ne peut pas vous désarmer. Et si l'examen concerne ceux qui les détiennent, sans en avoir la qualité.
Ce n'est pas les d'armes de guerre, quand même.
Les civils, il y a des caractéristiques, il y a des spécificités pour avoir une telle type d'arme. On ne va pas quand même vous autoriser à avoir une mitrailleuse.
Oui.
On va pas quand même
vous autoriser à avoir une mitrailleuse. Si vous avez une mitrailleuse,
pour ne pas trouver une mitrailleuse. Il y a une catégorisation.
Oui.
Telle arme de 30 mm à tel millimètre, cette arme, on peut autoriser un civil d'en détenir. Ce n'est pas n'importe quelle arme, les armes de guerre et qu'on soit.
Tout à fait.
Oui. C'est-à-dire, régulariser. Il y a des services au niveau de l'intérieur. Si lui, demain, il peut s'adresser à ce service-là, on lui dira la procédure.
Il aura tout à fait.
Et il y a des gens qui ont, chaque fois, régulièrement, il y a des gens qui ont les autorisations et les permis de port d'armes.
Mais dans le cadre de combattre l'insécurité qui est liée aux violences des armes, relative avec les armes, les gens qui utilisent, et la plupart des cas sont les civils, vous l'avez évoqué, 300 000 armes en circulation.
Ouais.
Qu'il faut-il faire maintenant pour récupérer ces armes et permettre à ceux de réduire, si pas avoir une insécurité zéro, mais ne plus que réduire facilement l'insécurité.
C'est ce que nous sommes en train de faire. Commencer les
armes.
Et la question que vous m'avez maintenant posée, qu'est-ce que vous ferez pour faire la
transformation des deux armes?
Il y a un processus qui est au sein même de l'armée. Parce que les gens accusent parfois l'armée de mettre à disposition de ces bandits des armes. C'est vrai, sous réserve de secret défense, il y a un processus au sein de l'armée qui est fait pour s'assurer qu'une arme qui détient aux forces de défense ne peut pas tomber dans les mains d'un civil. Un processus vraiment informatisé. Et tout. Quand on trouve une arme dans les mains, on sait directement. On sait directement d'où ça vient, de quelle unité ça vient. Il y a la traçabilité qui, au moment où je vous parle, ce système est en cours au sein de notre poste de défense et de sécurité.
Alors, l'opération que vous venez de lancer, le désarmement civil, devait avoir lieu depuis le mois de décembre.
Ouais.
Qu'est-ce qui est à la base de ce retard? Parce que nous sommes déjà au mois de mars.
Oui, il y a plusieurs facteurs quand même qui entrent en jeu pour lancer les opérations. Il y a, entre autres, le facteur climat. Vous savez que dans le nord Katanga, pendant la période de décembre, jusqu'à ce qu'il y a des très fortes pluies, l'accessibilité, parce qu'on ne va pas seulement faire dans les centres des territoires, hein, dans les chefs-lieux des territoires, on doit entrer même dans les petits
villages. Les problèmes d'accessibilité,
les problèmes matériels de la mort, les problèmes d'accessibilité principalement. C'est ce qui a retardé un peu. Bon, comme nous sommes déjà au mois de fin février, début mars, la pluie baisse un peu d'intensité. On va lancer
cette opération. Voilà, on va revenir à vous, colonel Castre. Vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction des violences armées. Albert, vous êtes à Kananga, Joseph Patissanali, maître trésor du Konza à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Albert, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Chier.
Vous avez la parole, Albert.
Ok, d'abord, merci de m'avoir donné cette occasion. Je vous salue, je salue notre invité et tout le peuple congolais. Bon, voilà, je dirais ceci, en ce qui concerne le désarmement. Vous savez, quand on donne quelqu'un un magasin, on sait, on a fait l'inventaire de ce qu'il y a dans ce magasin. Et après, quand on vient de faire un contrôle, on saura qu'il y avait autant, maintenant il n'y en a pas. J'ai entendu notre invité, le colonel, a dit qu'il y a environ, dans le Kivu, il doit y avoir au moins 300 000 armes qui circulent. C'est 300 000 armes. Dans notre pays, il n'y a pas. Est-ce que le colonel peut-il nous dire qu'il y a un magasin qui vend des armes dans notre pays? C'est 300 000 armes. On l'a su comment? En faisant les enquêtes. On peut bien faire des enquêtes? Moi, je dis que j'ai une arme. On dit que je n'ai pas l'arme. Mais je peux dénoncer quelqu'un pour dire non, c'est là une arme. Et on note qu'il y en a. Mais tout ça, ça c'est bien bon.
Oui, Albert.
Oui.
Je crois que vous avez suivi notre invité. Il a bien expliqué les choses, disons, au début de cette émission, que le port d'armes, si cela suit une procédure normale, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Intérieur, je crois que ce ministère a le devoir de vous octroyer
en fait, de vous autoriser de porter cette arme, quelle que soit sa nature. En tout cas, il y a des limites. Hein. Voilà. Alors, mais dans les cas où vous portez illégalement cette arme, maintenant, l'étape dans laquelle nous nous retrouvons actuellement avec le gouvernement, qui organise l'opération de désarmement volontaire du côté de civils pour désarmer les civils qui portent des armes illégalement, je crois que c'est à ce niveau. Et nous avons posé la question sur la traçabilité. Et c'est une question qui reste encore, qui demeure. La traçabilité, parce qu'il y a eu plusieurs opérations qui ont été organisées en amont avant celle-ci. Est-ce que ces opérations ont été suivies des opérations de processus de ce que nous avons appelé la traçabilité, les origines, la source, hein, pour la détention de ces armes? Au cas où c'est déclaré c'est illégal, je crois que les civils n'ont pas le droit de porter ces armes.
Oui, bien sûr, monsieur J.R. Les civils n'ont pas le droit. S'ils veulent porter des armes, ils vont demander l'autorisation. Mais l'origine, comment quelqu'un peut avoir cette autorisation de avoir cette arme? Parce que l'arme, j'achète un véhicule, je vais à la DGI pour l'immatriculation. On sait que j'ai acheté tel. Mais maintenant, ce qui concerne, il faut aller au ministère de l'Intérieur pour poser la question où est-ce qu'on vend les armes et là on va me guider à aller acheter, venir demander l'autorisation. Voilà la question qui
se pose. Allez, c'est quand même la réponse du colonel.
Merci, monsieur Albert. Ici, je peux vous donner quelques éléments de réponse. Vous savez, nous sommes un pays post-conflit. Si vous comptez le nombre d'années pendant lesquelles la RDC a été en conflit, directement ou indirectement, je crois que c'est plus de 20 ans. Pendant plus ou moins 20 ans, il y a eu des opérations militaires. Ici, nous prenons seulement le cas de l'Est. Il y a eu des opérations militaires. Il y a des éléments armés qui ont été déployés là-bas. Il y a eu des combats. Il y a des gens qui sont morts là-bas. Mais croyez-vous que quand les gens meurent au combat, toutes les armes sont récupérées? Par qui? Par les ennemis ou par vous-même? Il y a des armes forcément qui tombent dans les mains des incivils. Mais il y a aussi une origine. Il ne faut pas oublier que l'Est, avec tout ce qu'il y a comme enjeu là-bas, il y a eu un trafic illicite d'armes. Il y a eu des trafiquants qui sont venus de partout. Ici, quand nous parlons des civils, hein, nous ne disons pas seulement aux citoyens qui sont pauvres. Même les groupes qui sont organisés là, ce sont des civils, ce ne sont pas les forces armées. Les forces armées, les forces qui sont reconnues, ce sont les forces armées congolaises, la police nationale congolaise, reconnues par l'État, organisées par l'État. Et tous les autres groupes là, ce sont des civils. Et ils ont plus ou moins, pendant plus de 20 ans, il y a eu plusieurs sources d'approvisionnement.
Il y a eu des sources consolidées,
plusieurs sources d'approvisionnement. Il y a toujours les hommes véreux qui viennent aussi, profitent de cette occasion. L'insécurité profitant certaines personnes, ils viennent déverser les armes là-bas. Donc toutes ces armes, parce que je ne sais pas, je ne lui prends pas les intentions, c'est comme s'il est utilisé que ces armes, elles ne viennent pas du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas provoquer sa propre insécurité, à la propre population.
Alors, colonel, si vous permettez, Joseph, vous nous arrivez à Kisangani, le trésor à l'icône de la Kinshasa. Joseph, vous êtes avec nous? Joseph,
oui, allô.
Oui, Joseph, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je vous suis.
Vous avez la parole, Joseph.
Ok, je remercie d'abord le colonel Kachongo pour les interventions. Et puis, je remercie aussi la radio Kapi pour l'importance qu'il y a à débattre. Allô, JR.
Oui, allez-y, Joseph, allez-y.
Ok, alors, je disais que je remercie le Kapi et puis le colonel Kachongo qui est notre invité. Alors, je dis de toute. Les commissions du ministère de l'Intérieur, moi je trouve que la commission qui dirige le colonel, elle est très importante dans la mesure où elle est liée directement à la vie population. Et c'est ce que de tout ce que nous connaissons aujourd'hui à notre pays avec sécurité et conscience. Mais je me rends de plus en plus compte que si cette commission existe et si cette commission fonctionne, elle ne fonctionne que peut-être au niveau de Kinshasa. Et ce sont les gens de Kinshasa qui doivent se déplacer pour aller à mener une action à l'intérieur du pays. Je donne par exemple ici à Kisangani. Par hasard, je suis passé sur le boulevard Patrice Lumumba et j'ai trouvé une antenne de la commission qui représente la province orientale à l'époque. Mais c'est une maison qui est construite, mais aujourd'hui, à l'état d'abandon. En tout cas, cette maison n'est pas utilisée. Alors, c'est-à-dire que peut-être il y a une négligence
une négligence alors que la commission elle est beaucoup plus importante, elle ne peut pas seulement exister à Kinshasa, elle doit aussi être très mobile et très représentative au niveau
de
territoire. On doit approcher la population et surtout le cible des gens qui habitent de l'Est et les commissions. Les antennes de la commission au niveau des provinces doivent être opérationnelles. Mais c'est ce que je remarque, que les antennes ne sont pas opérationnelles. Ça, c'est vraiment peut-être un regret. Je ne sais pas pourquoi, si le colonel peut nous donner des plus d'autres explications par rapport à ça. Alors, la deuxième préoccupation, la méthode de la volontaire, qu'on dit la démobilisation volontaire, depuis qu'on a commencé, est-ce que le colonel pense que ça va donner de bons fruits ou on doit aller à une autre méthode ou on doit proposer carrément une autre méthode si le désarmement volontaire ne tient pas?
Voilà, oui, à ton niveau, puisse réfléchir et apporter aussi sa pierre dans la construction de notre pays, c'est-à-dire on apporte une contribution. Merci beaucoup. Trésor Likonza, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, maître Trésor.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, maître Trésor.
Bien, merci, j'encourage l'invité et j'exprime mon soutien sans équivoque à cette opération. Car, à mon avis, elle vise à prévenir les dangers et la prévention est mieux préférée que l'action. Puisque chaque fois que l'armée ou la police se mettent à réprimer certains comportements de la population, souvent ça ne frise pas une prudence de la part du gouvernement. Il faudrait plus penser à la prévention qu'à l'action. Et le désarmement en question est une prévention face à un danger qui pourra peut-être guetter notre société dans les jours à venir. Puisque définir légalement les armes constitue un danger permanent pour soi-même. Et à ce niveau, je pense que le gouvernement a bien réfléchi à travers le ministère de l'Intérieur pour désarmer les populations civiles. Je voudrais d'ores et déjà suggérer que cette opération soit menée concomitamment avec les renforcements même de la sécurité à travers les différentes cités du pays, puisque on a relevé le cas des armes blanches. On doit désarmer par rapport aux armes légères et petits calibres, mais il y a certaines armes blanches qui sont plus dangereuses que les armes légères. Et la population utilise ça souvent pendant lors des manifestations et aussi comme le pays est dans une situation
très cruciale
de la politique où il y a des mots d'ordre qui sont lancés parfois et de manière illégale et constitutionnelle poussant la population à des manifestations sans but, sans motivation. Il est bon que vraiment la population
soit sensibilisée. Merci beaucoup, Trésor.
Il y a également des questions à poser à l'invité.
Rapidement, oui.
Techniquement, il a donné le résultat d'une étude. Mais je voudrais savoir par rapport aux armes détenues par la population selon cette étude-là. Ces armes proviennent des pays limitrophes ou des milieux lointains par rapport au nombre d'armes qu'on avait dotées à l'armée nationale et à la police nationale.
Merci beaucoup, Trésor. Voilà, merci beaucoup, Trésor, d'avoir appelé. On va terminer cette série avec Joséphine qui est à Boston. Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je vais commencer par je vais poser des questions. Ce sont les questions qui vont déterminer ce que je pense. Je vais demander à notre invité la première question. Pourquoi la population civile est armée? Moi, je crois qu'on doit commencer par cette question. Pourquoi la population civile est armée? Si on trouve la réponse à cette question, moi, je crois que c'est par là qu'on va commencer par désarmer la population civile. Je vais prendre deux exemples. La situation qui s'est passée à Miriki, dans le village
de Miriki,
il y a les gens qui sont venus la nuit, ils ont tué ils ont tué la population. Et qu'est-ce que la population restante, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont s'armer parce qu'ils ne sont pas protégés. Notre État ne protège pas les civils. C'est pour cela que les civils, eux-mêmes, doivent, ils décident de prendre des armes légères pour se protéger. Il y a l'autre exemple de Lubumbashi. Récemment, il y a un militaire qui est allé boire avec son arme, s'il vous plaît. Il est allé au bar et il a perdu son téléphone et puis il a tiré sur les barmen. Je vous dis, il n'y a qu'au Congo, là où vous arrivez, vous trouvez les militaires armés dans des magasins, dans des bars, dans des fêtes armées. Il n'y a qu'au Congo qu'on trouve ça. Notre invité doit nous dire quand est-ce que l'État congolais doit demander à ses militaires de ne pas entrer dans des buvettes, dans des magasins armés.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. Notre invité va, en fait, répondre, ramasser les préoccupations des uns et des autres. Je commence par la question de Mme Joséphine à Boston. Bon, je crois qu'il ne faudrait pas quand même aussi chercher pas à exagérer. Il n'y a qu'une femme dans ce pays, à l'est du pays, là où nous allons, même dans les locataires, là où nous allons les armées. On ne peut pas y mettre pied. Si on dit que qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer la sécurité des personnes et des biens, de vous à moi, il y a tant de s'il faut parler même de triangle de la mort, personne n'est arrivé. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait le seul journaliste de Radio Capu qui est arrivé, et la famille m'a laissé sa peau. Franchement, il y a des opérations militaires qui ont été menées, plusieurs groupes armés ont été neutralisés, François. Il reste des mouvements et papiers par-ci par-là. Mais il n'y a 1500 personnes qui veulent y aller. Si le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour les armes. Mais qui doit détenir là, télé aux États-Unis, l'insécurité qu'il y a, du fait seulement que quelqu'un détienne une arme. Il faut créer l'insécurité. Même si cette arme, illégalement, détenue pour les États-Unis, les armes que les gens détiennent, parce que c'est là qu'elle vit. Mais tous les dégâts qu'il y a là-bas. Pourquoi les gens font ça? Mais les dommages que cette opération n'est pas, en fait, précédée d'une forte sensibilisation en amont. Parce que moi, je me donne un exemple simple, je ne sais pas, notre collègue, si vous le permettez. Ouais. Quand il s'agit, par exemple, d'une opération de vaccination contre la polio, on voit des panneaux géants, on voit des prospectrices, on voit tant d'autres supports de communication. Ouais. Mais pour, disons, une opération bien intérêt, si, permettez-moi la technologie, important. Alors,
mais la sensibilisation a déjà commencé. Vous êtes à Kinshasa, mais les territoires qui sont considérés, les territoires qui sont concernés, la sensibilisation a déjà commencé. Avant qu'on arrive à la récupération, proprement dit, des armes, un mois et demi, force sensibilisation. Partout, les acteurs civils, les acteurs étatiques, les leaders, donc, tout le monde est sensibilisé, tout le monde est...
Le leader de Kisadag a même souhaité que ce soit une action permanente.
Oui, c'est vrai que nous sommes une commission permanente, nous ne sommes pas une commission permanente.
Mais là, que vous tombez comme vous sauvez dans la soupe.
Oui, pour répondre à sa question de notre ami de Kisadag, nous avons une antenne. Nous sommes une commission qui a été créée jusqu'en 2008. Nous sommes en train de nous installer à travers la République. Sur les 11 anciennes provinces, déjà sur
les 11 provinces,
sur les 11
anciennes provinces, on va les découpages,
7 provinces ont déjà des antennes provinciales. Et quand il dit que non, ce sont des opérations qui sont menées par les gens qui viennent de Kinshasa, c'est pas vrai. Ces opérations, c'est vrai, la coordination est à Kinshasa, mais nous les menons avec le personnel de nos antennes provinciales. À la deuxième question de me demander, est-ce que le gouvernement civil porte de fruits? Mais la phase pilote que nous avons menée à l'étudier, la portée des grands, des bons fruits, pourquoi? Selon le gouvernement, c'est pas qu'il faut aussi parler aux gens. Il faut leur dire, le danger, ce n'est pas seulement un danger pour autrui. Quand vous détenez une arme spéciale, un danger pour vous-même.
Mais vous savez aussi, il y a un facteur qui demeure jusqu'alors, une épine, très sur les pieds de cette commission, et c'est cette affaire de forces d'autodéfense populaire.
Ouais.
Qui, en tout cas, selon plusieurs enquêtes, serait aussi, en tout cas, la genèse même aujourd'hui de l'insécurité et des violences armées. Le gouvernement qui avait donné des moyens, le gouvernement lui-même avait donné des moyens pour l'autodéfense populaire,
Et aujourd'hui, peu importe l'origine des fibres qui sont en circulation, nous, notre mission, c'est d'aller récupérer
tout ça.
Parce qu'il n'y a pas que les armes qui sont venues des forces d'autodéfense populaire. Il y a les armes qui sont venues de pays lointains. Je vais vous donner un exemple. À Ituri, quand nous étions en train de faire le désarmement, nous avons retrouvé des armes qui sont venues de l'Équateur. Fabrication artisanale.
Fabrication artisanale.
Mais détenues à Ituri. Vous voyez combien de kilomètres ça a pris. Il y a des armes qui sont venues peut-être de pays frontaliers. Raison pour laquelle la RDC, notre pays, a signé et va bientôt ratifier les traités sur le commerce des armes, qui est contraignant. C'est-à-dire qui limite un certain commerce illicite des armes entre les
États.
Ça empêche aux États frontaliers de déverser leurs armes dans notre pays.
Alors, on va prendre, si vous le permettez, la dernière série des auditeurs, et puis on revient à vous pour conclure cette émission. Patrick, vous êtes à Béni. Bonjour, Patrick.
Bonjour, JR. C'est Patrick Kassoula. J'ai quelques petites questions concernant notre invité. Et à tout l'auditoire, je sais que j'écoute à cet instant, et en félicitant aussi vos bravos pour éclairer l'opinion publique comme ça.
Merci beaucoup.
L'ancien président de l'Union, le pasteur Roy Moulunda, aujourd'hui, ce qu'il avait fait pour ces deux armes chez nous, dans le Grand Nord, dans le Nord, qui vous dit en général, cette opération, pourquoi le gouvernement n'avait pas soutenu cet ordre loyal comme ça, avec tous ces efforts qu'il a fournis, l'arme contre $100, l'arme de bombe contre $50, mais cette opération, jusqu'à preuve, pourquoi le gouvernement n'avait pas soutenu
cette
province? Deuxième question, il y a l'autoprise en charge de la population. Vous savez, pour ceux qui créent cette petite rébellion dans nos provinces, tout particulièrement en RDC, c'est le chômage. Et pourquoi, j'en félicite aussi le gouvernement avec cette bravoure qu'on la suspension de route. Aujourd'hui, on peut maintenant arriver dans son village, on enlève un peu.
Merci beaucoup, Patrick. Delphine, vous êtes à Lumbashi. Bonjour, Delphine. Vous avez juste 30 secondes, Delphine, et puis on va donner à Maître Mopil à Guébena. 30 secondes également. Delphine?
Oui, bonjour, JR.
Rapidement, votre préoccupation dans 30 secondes.
Ok, je vais seulement demander à mon colonel, ces portes d'armes qui sont dans les civils, ils doivent avoir un réseau avec ceux qui sont censés d'être les porteurs d'armes, donc de la police.
Les militaires ou la police. Oui.
Voilà. Nationale.
Donc pour vous, si on arrivait à tracer quand même ces ports d'armes, on trouverait que les responsables devraient être responsables devant des hommes en uniforme. Maître Mopila, vous êtes à Guébena. Bonjour, maître. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de maître Mopila. Voilà, beaucoup de préoccupations et d'appréhensions par rapport à ce sujet. L'opération démarre, en tout cas. Je crois qu'après sensibilisation, c'est ce vendredi. Oui. On pensait que ça a déjà eu lieu le 10h.
On lance la sensibilisation le vendredi qui vient.
Oui.
Ça prendra un mois avant de commencer l'opération pour le vendredi. Mais concomitamment, pendant qu'on est en train de faire la récupération d'art, la sensibilisation va continuer. Je voudrais répondre à notre ami Patrick qui a dit que le gouvernement n'a pas soutenu le pasteur
Gouvernement.
Moi, c'est un officier, moi, c'est un gouvernement, je ne sais pas. Pareil, c'est une ONG, sa structure, son organisation, d'où elle tirait les financements. Bon, moi je ne connais pas. Hein. Moi, je m'occupe du travail qui m'a été confié. Mais pour dire que nous continuons l'opération qui a été faite, que ça a été fait par Roy Moulunda, que ça a été fait par la Commission nationale. Bon, le résultat, c'est amener la population, débarrasser la population de toutes ces armes qui causent.
Mais j'imagine que vous quittez cette opération à un coût. Avez-vous des partenaires?
Non, cette opération, la première opération que nous avons
faite. Parce que le gouvernement doit normalement travailler, vous avez dit, l'enquête sur la perception de la sécurité, j'ai vu là-bas, il y a le PNUD, il y a le CRIB, donc vous avez quand même des partenaires,
ça, le gouvernement. Ça, c'est pour les études, mais l'opération pilote qui a été menée à Ituri, on avait profité de l'appui financier du PNUD. Mais pour celle-ci, c'est une opération qui est financée
par le gouvernement. Par le gouvernement, c'est pas secret, ça tourne autour de combien, du coup?
Non, vous savez,
uniquement pour le Katanga.
Pour le Katanga, c'est plus d'un million de dollars.
Un million de dollars.
Voilà. Le colonel, en matériel, en équipement et consommation, parce que nous, on ne va pas toucher à l'argent. C'est pas qu'on va aller prendre une arme contre 100 dollars.
Voilà, on vous accorderait quand même un dernier mot, comme pour sensibilisation de la population du Katanga, qui nous attend d'ailleurs ce vendredi déjà.
Oui, si je voudrais inviter.
En Swahili, pourquoi pas?
Non, j'ai. Parce que c'est.
Non, en Swahili pour ceux qui sont là-bas, et aussi à Lingala pour ceux qui sont là. Parce que...
D'abord en français. Je voudrais inviter mes frères, mes compatriotes qui sont dans le nord de l'ex-province du Katanga, au regard de problèmes qu'ils ont subis dus à la circulation des types d'armes de l'Irlande. Rendre les armes, c'est contribuer à la consolidation de la paix, à la sécurité et même au développement de leur contrée. Nous ne venons pas là-bas pour arrêter les armes, nous venons pour récupérer les armes. Et le gouvernement, pour dire, le gouvernement a pris l'engagement de ne poursuivre personne qui rendra l'arme. Parce que la détenir illégalement, c'est-à-dire une infraction. Normalement, vous remettez l'arme, vous arrêtez. Mais le gouvernement a pris l'engagement, il y a tous les services compétents sont déjà impliqués, quiconque rendra son arme sera pas poursuivi.
Merci beaucoup, colonel Jean-Pierre Kabouik. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de la violence armée. Et d'avoir accepté notre invitation à très bientôt. Dans un autre numéro, peut-être pour voir comment cela va donner comme résultat dans les jours à venir. N'attendons pas que nous serons, en tout cas, avec plaisir, obligés de vous recevoir dans ce même studio.
Merci.
Merci d'avoir fait les déplacements.
Merci.
Voilà, nous disons également merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot. Julie Présence s'est occupée du standard et cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Longuembo sous la supervision de Martin Sebou Jean-Pierre. Voilà, on se retrouve demain.